Remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Femmes, Radio Zone, c'est tous les mercredis de 17h à 20h en direct où vous pouvez nous appeler au 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Et puis aujourd'hui, tout de suite 17h-18h30 comme d'habitude, eh bien c'est Remue-ménage. Remue-ménage qui vous propose cet après-midi de la littérature et du cinéma. Tout d'abord, de la littérature avec Annette Zimmermann de la librairie des femmes à Genève, la librairie L'Inédite, qui était venue nous présenter le dernier livre d'Yvette Sgraggen, écrivaine suisse bien connue, écrivaine genevoise même, pour son dernier livre La Punta. Or, il s'avère qu'Yvette Sgraggen a eu l'honneur d'être plébiscitée par les auditeurs et auditrices genevois de la radio nationale. Et en son honneur, eh bien, je pense que ça vaut la peine que nous rediscutions de ce livre et qu'Annette nous le représente comme elle nous l'avait présenté il y a quelques mois. Alors, dans quelques instants, ce sera autour de La Punta, dernier livre d'Yvette Sgraggen, avec Annette Zimmermann de la librairie L'Inédite. Et puis, à 18h, 18h10, ça dépend notre invité arrivera à traverser l'onde des embouteillages. Eh bien, à 18h10, nous devrions avoir en direct dans nos studios Patricia Plattner. Patricia Plattner, qui est réalisatrice de cinéma, et bien d'autres choses encore que nous découvrirons avec elle, mais qui présente en ce moment au cinéma Scala à Genève Le Hibou et la Baleine, un film qu'elle a réalisé, film portrait autour de Nicolas Bouvier. Et elle viendra nous en parler autour des 18h, 18h10, comme je vous le disais. Voilà le programme pour cet après-midi que je vous rappelle, vous pouvez entendre soit à 23h mercredi soir, soit le jeudi matin à 11h. Alors pour tout de suite, on se met un petit peu dans l'ambiance de la fête parce qu'on a toujours du plaisir à se retrouver chaque mercredi, en tout cas moi pour ce qui me concerne. Et je vous propose d'entendre coup sur coup deux chansons, des plus belles chansons d'une femme que nous aimons beaucoup, Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold.
body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Funny feeling, good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La 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 la.
Janis Joplin.
Sit there
think I want to sit right back down. I want you to count. Ooh, count your fingers. All my unhappy, my unlucky, and my little, oh, girl blue. I know you're unhappy. Ooh, oh, hon, I know, baby, I know just how you feel.
Magnifique, éternelle, Janis Joplin. Vous êtes dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, je vous propose, là tout de suite dans quelques instants, de discuter avec Annette Lehmann de la librairie des femmes L'Inédite à Genève, du dernier roman d'Yvette Scragen, écrivaine genevoise, son dernier roman La Punta, qui a été élu meilleur livre pour cette saison, dernier salon du livre, par les auditeurs et auditrices de la Radio Suisse Romande. Et je pense que nous qui avions parlé de ce livre avant cela, puisque c'était en décembre dernier avec Annette, eh bien, je propose qu'on reparle de ce livre une fois qu'il est à l'honneur. Mieux, peut-être retournons aux premières amours, à la première façon dont on a parlé. Et puis, tout à l'heure, vers les 18h, je vous le disais, avec Patricia Plattner en direct, réalisatrice du film magnifique qui passe en ce moment au cinéma Scala à Genève, Le Hibou et la Baleine. Le Hibou et la Baleine, malgré ce titre étrange, est un portrait absolument fou, secouant, émouvant, où l'on découvre des tonnes de choses, de Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, qui est un grand écrivain suisse, je suppose que tout le monde qui nous écoute en ce moment le connaît, un homme qui bouge aussi bien dans sa tête comme sur la planète, et qui appartient à ces voyageurs racés, un peu l'œil bridé par les nombreuses lectures des moines bouddhiques qu'ils ont bu faire. Et ces séjours, aussi bien en Asie qu'à l'Ouest, ont l'ampleur et le rythme qui creuse une distance vertigineuse entre chaque ligne qui tombe de sa plume et les récits du globe-trotteur hâtif qu'il est. C'est un personnage passionnant, aux dons et facettes multiples. C'est un homme d'image. Il est iconographe par goût de la photographie et des bibliothèques, ainsi que pour gagner sa vie. Et Patricia Plattner, je suppose, nous expliquera un peu plus tard qu'est-ce que cela veut dire être iconographe. Et vous pouvez bien sûr le découvrir en regardant le film, parce qu'on le voit à l'œuvre. Dans ce film, Le Hibou et la Baleine, Nicolas Bouvier s'entretient sur cet paysage de réflexion, comme l'a appelé Patricia Plattner, réflexion privilégiée à ce jour, ponctuée par des images emblématiques et des musiques aimées et enregistrées par lui-même. Alors tout à l'heure, vers les 18h, avec Patricia Plattner, Le Hibou et la Baleine. Mais tout de suite, eh bien, c'est La Punta, Yvette Scragen, par les mots d'Annette Zimmermann de la librairie des femmes, L'Inédite.
Dans la Punta, il fait très chaud d'ailleurs. Comme le titre l'évoque, c'est un roman qui se passe en Espagne. Et d'emblée d'ailleurs, c'est un petit peu anachronique si on veut que Yvette Scragen nous raconte une histoire qui se passe en Espagne, puisque tous ses livres jusqu'à maintenant, qui sont toujours centrés quand même pas mal sur ce qu'elle a vécu elle dans sa vie, se déroulent essentiellement à Genève, voire en Suisse. Mais bon, ça, c'est pour l'exotisme de la Punta, parce qu'effectivement, le début du livre situe la situation d'un couple retraité qui doit partir en Espagne. Mais une bonne partie du livre évoque l'enfance de la narratrice, sa jeunesse. Et là, on retrouve les thèmes chers à Yvette Scragen, qu'on a déjà découvert, par exemple, dans les années silencieuses, où elle raconte sa vie. Et je dois dire que chaque fois, même si on connaît déjà un petit peu l'itinéraire de cette femme, c'est toujours extrêmement intéressant. Elle utilise toujours des matériaux de sa vie personnelle, mais elle en fait chaque fois un roman différent. Un roman en général très, très honnête, très pudique et en même temps très fort. Et chaque fois qu'on se met dans les livres d'Yvette Scragen, je trouve qu'on est vraiment très, très satisfait et en communication avec quelqu'un qui est extrêmement intéressant et honnête.
Alors, c'est un roman très particulier quand même, parce qu'il met en scène un couple de retraités, c'est ça?
Voilà. Alors, au début, nous apprenons que Vincent et sa femme doivent partir en Espagne pour la raison suivante, et effectivement ça met en scène d'ailleurs un problème très douloureux et très actuel qui existe autour de nous. Ce couple doit s'exiler parce qu'à Genève, son loyer va changer. Ils habitent une maison qui va être achetée par des promoteurs immobiliers, et s'ils veulent rester dans leur quartier, dans leur appartement, le loyer sera beaucoup, beaucoup trop cher pour la pension qu'ils touchent. Alors ils sont assez désespérés, et suite à un certain nombre de contacts, ils décident de quitter la Suisse radicalement. C'est peut-être ça la partie la moins crédible, à mon avis, du livre, parce qu'on a l'impression qu'ils se décident vraiment sur un coup de tête. Et ils partent en Espagne, mais très, très loin, presque tout près de Gibraltar, en fait, très bas, à la Punta, c'est vraiment très, très bas dans l'Espagne, parce qu'avec leur pension, ils peuvent réaliser l'achat d'une petite maison dans une région touristique de cette côte.
Mais Annette, ça, c'est le choix que font quand même pas mal de personnes âgées en Suisse, non?
Alors, je sais que c'est un choix qui se fait. Mais dans le livre, effectivement, ça se passe d'une manière tellement radicale, tellement brutale. Et d'ailleurs, justement, c'est le thème du livre. Ça sera quand même très difficile pour eux, cette transplantation, et ça crée pas mal de difficultés. Donc c'est exactement le thème du livre là qu'on aborde. C'est comment ce couple arrivera à passer la fin de sa vie éventuellement dans un cadre qui n'est pas du tout celui dans lequel ils ont vécu. Et c'est avec beaucoup de finesse que Yves Graggen nous présente ce problème. Alors je pourrais déjà vous lire un petit passage pour vous mettre en appétit et vous situer un petit peu le couple dont on va parler. En remontant la côte, je pense à la complicité des corps de Charles et Lydia, ce sont ses parents. Cette manière qu'ils avaient de s'attirer, comme s'ils étaient magnétiques. Deux parties d'un même tout. Moi, jamais je n'ai connu cela. Le corps de Vincent, après 40 ans de vie commune, mais presque étranger. Et lui non plus ne s'est jamais beaucoup occupé du mien. En dehors de ses étreintes, devenues rares au fil des années, qui nous rapprochait brièvement. Son corps, je le ressentais comme opaque, un obstacle opaque qui m'empêchait de le trouver, lui, le vrai Vincent, qui se retranchait pour mieux m'échapper, derrière cette chair épaisse, de plus en plus épaisse. Il fallait une maladie, une bronchite, un lumbago. Ma main découvrait, dans une odeur de pommade, le relief de sa peau sous ma paume, un grain de beauté, une irrégularité, une tache. Tu devrais montrer ça à un médecin. Mais non, grognait-il, pressé de refermer sa veste de pyjama, de remonter son pantalon. Nous n'avons pas su nous servir de nos corps pour mieux nous aimer. Alors on voit d'emblée, au début du livre, que la communication entre ces deux personnages est difficile, a été difficile toute leur vie. Et peu à peu, on va découvrir comment cette femme, qui est donc déjà âgée, va réussir quand même à communiquer avec ses voisins espagnols et à découvrir une certaine liberté de vie, d'action, qu'elle n'avait pas pu trouver dans sa vie extrêmement préservée, extrêmement casanière, qu'elle a menée à Genève dans sa relation avec son mari. Il y a dans ce livre encore une deuxième partie. Alors on suit, en somme, toute cette situation difficile d'adaptation en Espagne après ce brutal changement. mais la narratrice évoque aussi son enfance. Et il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à des souvenirs de la petite fille qui vivait dans le quartier des Falaises. Alors on retrouve une fois de plus les lieux genevois. Et qui raconte comment peu à peu elle a grandi entre un père et une mère, enfant unique. Un père et une mère qui s'aimaient beaucoup, mais qui en fait ne s'occupaient pas tellement de cette petite fille et qui toujours a recherché l'amour. Et on sent très fort dans ce livre que cette femme, toute sa vie, a recherché une relation privilégiée avec quelqu'un, qu'elle a toujours le souvenir de ses parents qui vivaient vraiment l'un pour l'autre. Elle raconte d'ailleurs à un moment donné la mort du père qui est mort assez jeune et le désespoir de sa mère qui n'a eu plus qu'une envie en fait à ce moment-là, c'était rejoindre son mari dans la tombe et à quel point ça a été difficile. Donc il y a en fait plusieurs histoires qu'on suit dans ce roman et ça fait ces différentes trames qui sont chaque fois très profondément analysées.
Quand tu disais tout à l'heure, dans la première partie, c'est l'histoire du couple, est-ce que c'est aussi l'histoire de la femme et de l'homme? Parce que chacun va se raconter une histoire, leur façon de s'adapter à cette nouvelle vie, où on suit la femme en particulier.
Alors, c'est vraiment la voix de la femme. Et c'est elle qui donne en fait la parole à son mari, qui peu à peu nous le dépeint, nous brosse un petit peu son caractère. Mais c'est toujours la voix de la femme qui domine, ça c'est absolument sûr. Et dans ce sens-là, il y a une certaine subjectivité dans le livre, sans aucun doute. Mais en même temps, elle a un regard extrêmement nuancé sur les choses. On sent qu'elle essaye de comprendre tout ce qui se passe pour l'autre, mais on la sent effectivement beaucoup plus forte, beaucoup plus en prise sur la réalité. Et à la fin, bien sûr, je ne vais pas vous raconter la fin, parce qu'il y a plusieurs rebondissements qui sont tout à fait nouveaux à la fin. Mais effectivement, on sent que c'est elle qui découvre un certain nombre d'événements, un certain nombre de réalités, et qui s'affirme de plus en plus. Mais c'est assez extraordinaire de voir comment cette femme qui, dans l'histoire-là, a plus de 65 ans, arrive à ce moment-là à affirmer enfin ce qu'elle veut et qui n'a jamais pu le faire malgré une vie de jeune femme indépendante. Elle, après la description de son enfance que j'ai évoquée tout à l'heure, elle parle de sa jeunesse et on retrouve le Yvette Gragen qui travaillait à la Croix-Rouge pendant la guerre, qui part à Paris pour aider des convois de réfugiés, qui communique avec, par exemple, de jeunes officiers américains qui, comme elle, devaient aider les réfugiés de la Croix-Rouge. Donc une jeune femme qui a quand même pu s'ouvrir à un monde seul, qui avait une formation solide pour l'époque, puisque c'était les années 40, toutes les femmes ne faisaient pas des études solides à ce moment-là, et qui, malgré tout, n'a pas réussi à vraiment choisir son existence. Elle a été toujours conditionnée encore par ce que ses parents lui disaient de faire. Et ça, c'est assez impressionnant, en fait, de voir que c'est uniquement vers la fin de sa vie qu'elle se dit quand même ça, je vais une fois faire pour moi.
Lorsque tu dis cela, Annette, ça me fait penser certainement à des femmes de la génération de ma mère, par exemple.
Hein. Probablement, comme la mienne, d'ailleurs.
Qui toutes réalisent fort tard ce qu'elles auraient aimé faire. Ouais. Et tu crois que Yvette Gragen a réuni un peu autour d'elle ces personnages, c'est un peu la réunion de témoignages de femmes qu'elle a dû entendre.
Écoute,
autour d'elle.
Je pense que ça serait très intéressant de l'interviewer, elle, pour savoir. Mais je sais qu'elle est assez active dans un groupe de personnes âgées actuellement à Genève. Je crois qu'elle rédige des articles pour un journal destiné aux retraités. Et je pense qu'elle a l'occasion, elle, effectivement, de rencontrer beaucoup de gens de son âge et qui n'ont pas réalisé sa vie comme elle l'a faite, parce que c'est une femme écrivain renommée, à juste titre, et qui, elle, a pu réaliser vraiment une œuvre, ce qui est quand même pas très courant dans les femmes de sa génération. Mais en tout cas, une œuvre romancée, une œuvre d'œuvre littéraire. Et je crois qu'effectivement, elle dit d'ailleurs dans un petit encart au début du livre que c'est un livre où la fiction se mêle tellement à la réalité qu'elle-même parfois ne savait plus très bien si elle écrivait un roman ou si elle racontait quelque chose de vrai. Et je pense que c'est lié aussi au contact qu'elle a avec des femmes de son âge maintenant et qui effectivement sont devant finalement encore des choix difficiles, même en fin de vie.
Oui, parce que la réflexion sur la vieillesse, bon, c'est, On y arrive petit à petit, je suppose, et Yvette Scraggins se trouve peut-être aujourd'hui, elle aussi, à son tour confrontée à cette réflexion.
Oui, parce qu'elle est elle-même assez âgée, ça c'est sûr. Alors, pour revenir à notre livre La Punta, j'aimerais vous lire encore un passage où on voit la manière dont Yvette Scraggins parle de l'Espagne d'aujourd'hui et de cette migration obligatoire que le couple dont elle parle a dû effectuer. Elle raconte des promenades qu'elle fait le matin. Le plus souvent, je suis seule sur ces chemins. Sur l'un d'eux, le matin, je croise une femme en noir. Grande, maigre, elle marche vite, agile malgré son âge. La démarche souple de certaines Africaines ou de ces femmes des Abruzzes qui portent de lourdes charges sur la tête. Elle descend la colline et parfois je la vois remonter le soir du même pas ailé. Il arrive que nous échangions un sourire. Je crois que j'ai découvert sa maison, petite, basse, enfouie sous un immense bougainvillier, au fond d'un jardin où poussent des orangers, des citronniers, un arbre de Judée et que borde un mur couvert de géraniums de toutes les couleurs. Un jour, je saurai suffisamment l'espagnol pour lui parler, pour lui demander de me raconter le village avant l'arrivée des promoteurs. Comment il a traversé la guerre civile? Comment il vit maintenant cette nouvelle occupation étrangère? Et moi, je lui dirai qu'un jour, dans un train suisse, en 1942 ou 43, j'ai rencontré un petit garçon blond tout bouclé que j'ai reconnu parce qu'on voyait souvent sa photographie dans des magazines. Il parlait espagnol et jouait avec un pistolet à amorce. J'ajouterai que cela me fait plaisir de le retrouver maintenant en effigie sur les pièces de monnaie et que chaque fois, cet ancien souvenir me revient. Il me semble que nous aurons beaucoup de choses à nous dire, elle et moi. Vincent ne quitte plus la villa. Je lui parle de l'automne, de l'hiver qui seront bientôt là, des mimosas, des amandiers en fleurs. Je vante la situation privilégiée de notre maison, à l'écart, avec cette vue sur les pins, les vignes et quelques bâtisses qui ne nous dérangent pas. Il désigne du doigt les deux tours construites sur la hauteur, près du cap. Et ça alors ? Il ajoute que cet infâme bâtiment rayé comme un zèbre à l'entrée du village ne peut pas le supporter. Tu ne le vois jamais. Je sais qu'il est là. Sombre, buté. Je dis que ces quelques erreurs datent du franquisme comme d'autres constructions monstrueuses qui défigurent le littoral. Ici, nous avons de la chance. Le développement a commencé plus tard, à un moment où l'on était attentif à l'environnement. D'accord, on a construit trop de bungalows, de villas, mais, il m'interrompt, tes socialistes étant cher Juan Carlos, bientôt tu seras plus chauvine que n'importe quel espagnol. Alors j'espère qu'avec ces quelques passages, vous avez pu apprécier notamment le style d'Yvette Scraggins. C'est vraiment un livre qui se lit extrêmement facilement, mais on sent que chaque mot, chaque recherche d'adjectifs ou de verbes est vraiment le travail de l'écrivaine. Et c'est je trouve, extrêmement agréable à lire dans ce sens-là. On découvre aussi à quel point, donc, une fois de plus, cette femme âgée recherche l'intégration dans un nouveau pays et à quel point, avec quelle délicatesse, elle s'approche en fait, des gens autour d'elle.